Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Brive pour cette foire du livre et bienvenue en ce forum Claude Duneton si vous nous rejoignez aujourd'hui. Je suis Pierre Croze du site Babelio. C'est un site qui vous permet de constituer votre bibliothèque et d'ajouter des critiques sur les livres que vous avez achetés, par exemple à la foire du livre de Brive. Et on vous propose aujourd'hui une rencontre autour d'un thème peut-être universel, l'amour, et plus particulièrement des liens qui peuvent unir deux êtres, des liens amoureux donc, mais qui peuvent aussi se rompre violemment. On va parler de rencontres amoureuses, amicales, joyeuses, mais aussi endeuillées ou carrément meurtrières. Vive et Étienne forment un couple formidable. C'est ce que se répète Étienne, le personnage de votre roman Claire Berès. Bonjour Claire. Pourtant, on apprend immédiatement de la première page qu'à un moment donné, il va tuer sa femme. Quand le roman commence, tout va bien, il fait beau. Vive et Étienne forment un couple formidable. Qu'est-ce qui a pu se passer? On va en parler ensemble. Votre roman s'intitule « L'épaisseur d'un cheveu » et est publié chez Albin Michel. Vous êtes en dédicace aujourd'hui et dimanche en kiosque L2. Je repréciserai après les stands, les kiosques. On parlait de beau temps qui peut vite tourner à l'orage. Et justement, on va parler nuages avec vous, Mathieu Simonet. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous publiez « La fin des nuages » aux éditions Julliard. Vous y parlez du deuil de votre mari, de votre amoureux, Benoît. Et en parallèle, vous évoquez une théorie connue, qui dit qu'un battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Vous vous demandez en effet, tout au long du récit, si son dernier souffle à votre mari a pu avoir un impact sur la météo parisienne. Il faut dire que Benoît avait créé et gérait tous les ans la tenue d'un festival de musique que certains connaissent peut-être, le Fnac Live Music, Musique Fnac Live. C'est un festival de musique en plein air à Paris. Et qu'il scrutait la météo tous les ans. C'est l'occasion pour vous de vous interroger sur cette question. Peut-on faire tomber artificiellement la pluie d'un nuage? Est-ce réalisable? En a-t-on le droit, même moral? On va en parler. Vous êtes en dédicace cet après-midi, samedi, enfin aujourd'hui, et dimanche matin au kiosque L6. Enfin, on va parler d'une rencontre qui n'est peut-être pas amoureuse, mais qui n'est pas moins significative, importante, décisive même. C'est celle de Isor, une jeune fille qui est différente des autres, et Lucien, un vieil homme qui vit seul dans sa maison. Elle ne parle pas, elle n'est d'ailleurs pas scolarisée. On la pense soit idiote dans le pire des cas, soit spéciale dans le meilleur des cas. Lui semble avoir un chagrin immense. Il est assez âgé, il est assez isolé. Leur rencontre va les changer tous les deux, les révéler aussi peut-être. On va en parler avec vous, Alice Renard. Bonjour Alice.
Bonjour.
Et je précise qu'il s'agit de votre tout premier roman, publié donc à 21 ans, et qu'il a été très remarqué. Il a d'ailleurs gagné plusieurs prix. Le livre s'intitule « La colère et l'envie » et il est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Vous êtes en dédicace aujourd'hui et dimanche, stand L12. Alors avant de parler tous ensemble de vos romans et des thèmes qui les relient, j'ai une question peut-être pour vous trois autour de vos différents personnages, puisque l'on parle de couple, de rencontre. Alice Renard, peut-être pour commencer, les questions d'une rencontre entre une jeune femme très différente donc des autres et un voisin plus âgé. Qui est-elle exactement, Isor? Qu'est-ce qui vous intéressait en elle? Et est-ce que c'est de ce personnage-là qu'est née véritablement cette histoire?
Isor, quand j'essaie de la décrire en un mot, souvent j'aime dire que c'est un volcan. C'est une jeune fille qui a un énorme bouillonnement intérieur d'énergie, d'intensité, par lequel elle est souvent dépassée et qui, du coup, sort sous forme d'éruptions volcaniques, de grosses explosions, notamment de colère, comme l'indique le titre. Mais ça peut aussi être des immenses moments de joie, des immenses moments de désespoir, vraiment des émotions très fortes qui la submergent. Elle a aussi un sens de la sensorialité, quelque chose qu'elle vit très très fort, les couleurs, les odeurs, les textures autour d'elle. Et elle a décidé de pas parler. Donc à la fois, elle est très connectée aux choses qui se passent à son environnement direct, et en même temps, elle est plongée dans un monde intérieur. Elle refuse d'aller à l'école. Elle aime juste flotter dans ses sensations. Au début du livre, elle a 13 ans, à la fin du livre, 16 ans. Donc c'est un âge où on attend beaucoup des adolescents de grandir, de révéler une maturité. Mais voilà, Isor décide de pas vraiment grandir au départ, ce qui désespère ses parents. Et effectivement, c'est d'elle qu'est née l'intrigue de son être au monde très particulier. Aussi souvent, je donne le mot-clé de autiste parce que je vois que c'est un mot qui aide les gens à un peu cerner son caractère et souvent à se reconnaître ou à reconnaître des proches dans ce qu'elle vit. Voilà.
On va reparler évidemment de ce personnage et du deuxième personnage aussi qui est au cœur évidemment du roman. Claire Berès, vous parlez-vous d'un couple dans votre roman, un couple qui va bien, donc dans les premières pages, je le disais. On connaît l'issue tragique, on va en parler pendant la rencontre, mais qu'est-ce qui vous intéressait déjà dans ce couple-là, dans ces deux personnages-là? Est-ce que vous pouvez nous les présenter aussi et nous dire, parce qu'ils vivent plutôt bien, ils sont dans un milieu professionnel qui les intéresse, tout se passe bien.
Bonjour à tous. Oui, l'épaisseur d'un cheveu, c'est l'histoire d'Étienne et Vive le chevalier. Et effectivement, Étienne aime à dire qu'avec Vive, il forme un couple solide. Il y a cette idée de stabilité qui est si importante pour lui. Parce qu'Étienne, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu. C'est quelqu'un qui tient très à jour son agenda. Et si quelque chose vient se rajouter, ça peut vraiment le mettre dans des états de panique. Il est, ce qu'on dirait, un petit peu rigide. Et effectivement, quand le roman commence, nous sommes lundi. Et la semaine s'annonce plutôt bien pour Étienne. Effectivement, il doit aller au concert comme tous les mardis soirs, le lendemain avec sa femme Vive. Il est passionné de musique classique. Il a quelques événements dans la semaine, mais somme toute, ça a l'air d'aller bien. Et oui, nous savons à la première page que dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne le chevalier va tuer sa femme. Et c'est très important de le dire tout de suite, il n'y a aucun antécédent de violence entre eux. Ils sont ensemble depuis plus de 10 ans. Lui est correcteur dans le milieu de l'édition. Elle travaille dans le milieu de l'art contemporain, mais elle est dans une association. Et elle essaye de faire de la photographie à côté. Et de fait, on pourrait avoir l'impression, comme ça en vitrine, que c'est un couple avec un gros capital social, culturel, assis. Lui, l'édition, elle, l'art, la photo. Ils sont propriétaires de leur appartement. Mais de fait, si on creuse un petit peu derrière la vitrine, on se rend compte que oui, il est propriétaire de son appartement parce qu'il l'a hérité très tôt, parce qu'il a perdu ses parents. Il est dans l'édition, mais il est correcteur, il se sent être un factotum, un homme de l'ombre, pas reconnu pour ses talents. Elle est dans l'art contemporain, mais elle est dans l'associatif. Elle gagne très peu d'argent, ils ont des difficultés financières. Lui vient d'être passé de temps complet à temps partiel. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait jamais ce qui se passe chez les gens. On ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Quand la porte est fermée, l'intimité, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait absolument pas. Et précisément, j'ai voulu, avec honnêteté, me plonger dans la tête d'Étienne pour l'accompagner dans ce déraillement paroxystique et surtout sans jugement moral, parce que la littérature n'est pas le lieu du jugement moral.
Et on va creuser un peu, mais juste en quelques secondes, c'est d'abord de lui qui est venu, il y avait l'idée de couple évidemment dans le récit, mais lui est venu très tôt. Vous aviez d'abord ce portrait de ce personnage-là, ou est-ce que les deux sont nés vraiment en même temps avec l'idée de creuser ce couple ?
Pour ce livre-là, et c'est pas chaque livre est un cheminement différent. Mon livre précédent était parti d'un personnage, vraiment, et j'avais construit autour de ce personnage. Ici, le désir d'écriture est venu du sujet, donc je voulais me plonger dans l'homicide conjugal. C'était l'endroit, voilà, de mon travail. Et pour ce faire, avant d'inviter Étienne et Vivre à toquer à la porte, on va dire, je me suis plongée de longs mois dans de vrais cas d'homicides conjugaux. J'ai eu accès à des dossiers, j'ai pu aller dans des tribunaux et puis bien sûr beaucoup de criminologues qui ont écrit sur le sujet, qui ont été extrêmement précieux. Je pense à Étienne Degreff, à Daniel Zaguri, La barbarie des hommes ordinaires, Joël Guillet, mais aussi thèse de médecine légale. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que je m'immerge absolument dans ce sujet pour pouvoir ensuite, d'une certaine manière, permettre au travail de romancier de se déployer. Et Étienne est arrivé très vite. Ce qui était important pour moi, c'était de trouver quelque chose de motif qui se répète dans ce terrible passage à l'acte de l'homicide conjugal, d'aller chercher ces motifs qui résonnent d'un cas à un autre, même si chaque cas est absolument un parcours singulier. Et donc je voulais, en Étienne et Vive, créer ce couple avec une histoire singulière. Chaque couple a son langage, chaque couple a ses souvenirs, chaque couple a ses moments d'humour, chaque couple a ses zones d'ombre. Mais je voulais créer Étienne et Vive de manière absolument particulière, singulière, mais en mettant de ce que j'avais vu de ces échos d'un terrible homicide conjugal à un autre terrible homicide conjugal. Et donc, Étienne s'est déployé après ce grand travail de recherche. Très vite, il s'est imposé. Et effectivement, je parle beaucoup d'Étienne puisque je voulais être dans sa tête et dans son corps. Mais Vive, malheureusement, le tenait par la main. Les deux se sont construits ensemble. Même si, comme le projet d'être dans sa tête, on perçoit Vive toujours par le regard de son mari, mais je voulais qu'une femme soit en couverture parce qu'elle est en même temps au centre de tout.
Mathieu, dans c'est un roman, La fin des nuages, où vous parlez d'un deuil, de votre deuil, mais vous parlez aussi évidemment de votre rencontre avec votre mari. Est-ce qu'il faut nous parler de cette rencontre-là qui est dans le livre, qui est presque un hasard total, mais comme peut-être toutes les rencontres ?
Oui, alors peut-être en écoutant Claire, il y a un point commun entre nos deux livres, c'est que initialement, c'était pas du tout un livre sur Benoît initialement, c'était d'abord un livre sur des recherches, puisqu'il y a aujourd'hui une cinquantaine de pays qui manipulent les nuages pour en faire, pour les manipuler, pour les faire pleuvoir plus vite, pour en faire des armes de guerre, pour avoir un ciel bleu. Et il n'y a pas de loi aujourd'hui, donc chacun peut faire ce qu'il veut sur les nuages qui survolent son territoire, alors même que lorsqu'on manipule les nuages, il y a des enjeux géopolitiques. Des pays commencent à dire qu'on leur a volé les nuages, des enjeux sanitaires. On se demande quel est l'effet secondaire des produits envoyés dans le ciel. Donc au début, je faisais des recherches et c'était pas du tout un livre sur Benoît, sur mon mari, sur mon amoureux. Et il se trouve que, comme vous l'avez dit, Benoît avait créé un festival de musique en plein air, et donc il avait toujours peur qu'il pleuve. Et c'est mon éditrice, Lisa Liotto, qui à un moment donné m'a dit « Mais est-ce que tu pourrais pas aller plus loin et tisser cette histoire de couple, cette histoire de deuil, puisque Benoît est mort en 2020 ?» Et donc, au fur et à mesure, le personnage de Benoît est arrivé. Ce qui n'était pas évident, parce qu'on a vécu 15 ans avec Benoît, et il y avait une règle très très claire quand on s'est rencontré avec Benoît. Moi, j'écris beaucoup de choses autobiographiques, et il m'a dit « je t'interdis d'écrire sur moi ». Donc, j'ai écrit plusieurs livres, et je ne parlais pas de lui, ou je l'évoquais avec un pseudo. Et en fait, là, il y a eu un changement, puisque quand Benoît est mort, il a été très marqué par un dessin animé que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Coco. Et dans ce dessin animé, il a expliqué que on ne meurt vraiment que quand on ne se souvient plus de nous. Et Benoît a vu ce film dans l'avion, il revenait d'Asie, il savait qu'il allait bientôt mourir, il pleurait, il était très grand, il pleurait, il me disait « j'étais ridicule à pleurer devant un dessin animé », mais il s'est dit « qui va se souvenir de moi dans quelques mois ?» Et quelques semaines avant de mourir, il m'a dit « je ne veux pas qu'on m'oublie, je veux que tu écrives sur moi ». Donc c'est vrai que initialement, j'avais en tête de faire un livre sur Benoît, un livre sur les nuages, et puis au fur et à mesure, les deux se sont hybridés. Et je crois beaucoup que dans l'écriture, il y a des hasards qu'on découvre au fur et à mesure de l'écriture. Et comme vous l'évoquiez, effectivement, la première scène du livre, c'est quand on s'est rencontré avec Benoît. On se rencontre en décembre 2004 dans une boîte de nuit sur un premier malentendu, c'est que je suis myope, j'adore danser, j'adore sourire et je ne vois rien. Et Benoît était très timide et il a cru que je le matais et que je lui souriais. Or, je souriais dans le vide et donc il est venu me parler. Et heureusement, parce que ça a permis de créer cette rencontre. Et pendant peut-être une semaine, on n'a pas regardé la télé, on n'a pas regardé les infos, on était dans notre bulle, et on n'a pas su qu'au moment où on s'est rencontrés, et je l'ai su quelques jours après, en fait, un ami m'a appelé en me disant, en me prenant des nouvelles, et je lui demandais, tes vacances se sont bien passées? Et il était horrifié, parce qu'il me disait, mais Mathieu, t'es au courant de l'actualité? Je dis non. Et il me dit, bah, il y a eu le tsunami, moi j'étais à un endroit où il y a eu le tsunami, j'ai failli mourir. Et on s'est rendu compte avec Benoît que Benoît m'a parlé au moment où le tsunami commençait, le tsunami de 2004. Donc c'était dans la nuit du 25 au 26 décembre à 1h du matin. Et tout d'un coup, on a pensé à cette théorie qu'évoquait Pierre, de la théorie de l'effet papillon. Et je me suis demandé, est-ce que... Alors c'était horrible de penser ça, mais est-ce que la première parole de Benoît aurait pu créer le tsunami ? C'était horrible comme idée, mais cette idée horrible, elle m'est revenue avec émotion à la mort de Benoît, et tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que le dernier souffle de Benoît en février 2020 pourrait avoir un effet sur la météo? Parce que pendant 10 ans, Benoît a fait son festival, et il avait peur qu'il pleuve, et il pleuvait jamais. Donc il avait de la chance, mais jusqu'au dernier moment, il avait peur qu'il pleuve. Et en février 2020, c'était le 10e anniversaire du FNAC Live, il fait la programmation, il sait qu'il va mourir dans quelques jours, il dit à toutes ses équipes, il faut que ce 10e anniversaire soit merveilleux, parce qu'il a lieu en juillet, donc il meurt, et tout le monde se fait la promesse que ce sera merveilleux pour ce 10e anniversaire du FNAC Live. Et ce qu'il n'a pas su, c'est que quelques jours après, il y a eu le confinement, que tous les festivals d'été ont été annulés, et que le 10e anniversaire n'a pas eu lieu. Et donc je me suis dit, est-ce que cette année il va pleuvoir ? Ce qui serait la preuve que le monde pleure Benoît. Et donc j'avais envie qu'au début du FNAC Live, le premier jour du FNAC Live qui n'a pas eu lieu, le 1er février à 17h, j'espérais qu'il allait pleuvoir sur le parvis de l'hôtel de Ville de Paris. Et je me suis posé la question si le dernier souffle de Benoît serait capable de provoquer cette pluie. Donc j'ai mené une enquête jusqu'au 1er février. Et il a plu le 1er février à 17h. Et beaucoup de gens étaient au courant et je recevais énormément de textos. C'était très émouvant.
Voilà. Qu'est-ce qui fait rencontre ? On peut se poser la question. Vous, il y avait presque un accident. C'est vertigineux de se poser la question de ce qui fait la rencontre. On peut se poser la question aussi en lisant votre roman, Alice Renard. Qu'est-ce qui fait la rencontre, le match entre Isor et le vieux monsieur qui habite... qui se trouve être son voisin, qui est très solitaire. Ils vont tous les deux s'ouvrir l'un à l'autre. C'est une vraie bascule. Comment expliquer cette rencontre ?
Il y a plusieurs raisons. La première, et c'est par rapport à l'âge. Isor, mon personnage principal, elle évolue complètement hors des catégories d'âge de par sa différence. Il y a des moments où elle peut se rouler par terre comme si elle avait 3 ans et avoir des crises de larmes, et d'autres moments où ses parents disent qu'elle a des regards extrêmement profonds, comme des regards de poète, qui explorent l'âme humaine, et du coup, elle est toujours dans une ambivalence où les cadres ont volé en éclats. Et Lucien, ce vieux monsieur, il a vécu sa vie, mais il a voulu l'oublier. Donc lui aussi, il se retrouve dans un espace où l'âge n'est plus vraiment un critère pour comprendre qui il est. Et cet espace flottant, ça leur permet, comme ils sont dans le même espace, de se rencontrer. Il y a aussi le fait que Lucien a vécu un grand drame dans sa vie et que du coup, les émotions extrêmes ne lui font pas peur parce que lui, il a vécu avec intensité le désespoir et le chagrin. Et ce qui bloque les parents d'Isor pour la comprendre aussi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment accès à l'intensité de ce qu'elle vit, et le caractère extrême de ce qu'elle ressent leur fait très peur. Et pour lui, c'est pas un souci. Et même l'amplitude des émotions d'Isor, ça lui permet de ramener de la vitalité, parce qu'il dit que la seule émotion qu'il est capable de ressentir, c'est une sorte de tristesse monocorde. Et c'est comme si Isor pouvait ramener tout un tas de couleurs à sa palette, pour lui faire ressentir ces émotions-là, parce que de lui-même, il ne les produit plus, son corps ne les produit plus. Et
vous parlez d'Isor qui était très au cœur de ce roman, c'est d'elle qu'est née l'intrigue, mais oui. Il y avait évidemment l'idée de la faire rencontrer quelqu'un pour la faire ouvrir aussi.
Toute l'intrigue, c'est un écrin pour parler d'Isor. Et ça m'est apparu comme un événement qui pouvait faire partie de cet écrin, qui pouvait permettre de déployer ce personnage dans une situation qui serait intéressante, parce que précisément, c'est enfin dans cette rencontre qu'elle va pouvoir être acceptée et comprise. Et c'est ça la dernière chose que je voulais dire sur Lucien, c'est qu'il était photographe. Et moi, ce que je comprends de la photographie, je le comprends à partir d'une phrase de Henri Cartier-Bresson qui dit « Prendre une photo, c'est comme dire oui, oui, oui. C'est acquiescer aux choses qui se passent, être témoin. Voilà. » Et donc c'est pour ça qu'il voit Isor et il est juste capable de dire oui, de faire témoignage de sa présence.
En parlant de photographie, votre personnage, un de vos personnages féminins, elle est photographe. Je ne sais pas s'il y avait un certain sens à faire d'elle une photographe, ou c'était pour les installer peut-être culturellement dans cette vie parisienne aussi un peu culturelle. Ou est-ce que le fait d'être photographe avait une vraie importance ?
Effectivement, quand on crée des personnages, et mes camarades le savent, quelle est la part de choix conscient et inconscient dans ce qui va les nourrir, ce qui va les enrichir. Nos personnages, ils ont un métier, ils ont un passé, ils ont des tocs, ils ont leurs particularités. Quand on les construit, quand on les crée, je pense qu'il y a une part de choix qui est comme un outil narratif. On va dire, c'est intéressant. Par exemple, dans le cas d'Étienne, je trouvais ça passionnant qu'il soit correcteur, parce que les lecteurs correcteurs, et j'en ai rencontré un certain nombre pour mes livres, ce sont des gens très investis dans le langage, dans ses us et dans ses usages. Et il y a cette idée de devoir redresser ce qui est peut-être tordu ou baroque, mais quelle est la frontière dans la création, à quel endroit il faut redresser ou non. Et cette idée de redresser, cette idée aussi qui sonne dans correction de violence, le choix s'est imposé avec toutes ces idées-là qui faisaient écho à mon sujet. Et puis je trouvais ça intéressant de le mettre dans un milieu où il en est sans en être. Pour Vive, je crois que c'était pas accidentel cette envie de faire d'elle une photographe, parce que ils se sont rencontrés, Étienne et Vive, lors d'une de ses expositions de photos. Mais alors on s'entend, elle avait accroché des photos dans un café, elle avait convié ses amis, elle n'était pas reconnue dans ce milieu-là. Mais elle avait invité cet homme parce qu'il se trouve qu'ils s'étaient connus enfants et qu'à ce moment-là du roman, enfin 10 ans plus tôt quand ils se sont rencontrés, c'est le début un peu des réseaux sociaux et donc les gens étaient un petit peu comme ça avides de lancer des bouteilles à la mer de gens qu'ils n'avaient pas croisés depuis très longtemps et elle avait invité cet homme qu'elle avait connu enfant et il se retrouve dans cette exposition de photos et c'était important pour moi que cette fausse première rencontre, puisqu'ils s'étaient rencontrés enfant, se passe à un endroit où Vive, son vrai prénom c'est Violette, mais tout le monde l'appelle Vive, exposait quelque chose d'elle, que Étienne flashait sur cette femme, peut-être par son audace de pouvoir à ce point-là se montrer. Faire des photographies, c'est comme donner à voir son propre regard. Je trouvais ça intéressant que la tension amoureuse, et tu parlais très joliment de cette rencontre avec ton mari, et c'est toujours très beau les rencontres, enfin voilà, ce moment, et leurs yeux se rencontrèrent, hein, voilà, ce moment-là qui se fait. Et comme mon pauvre Étienne est un homme qui est, je pense, très difficile à aborder quand on lit ce texte, parce qu'il est au pire moment de sa vie et il va commettre l'irréparable, mais il a été quelqu'un d'autre avant et cette histoire a eu lieu, cette histoire d'amour et cette rencontre, et il se trouve, pour revenir à votre question et de la photographie, que Vive reproche à Étienne de ne lui jamais la prendre en photo. Elle est photographe, c'est ce qu'elle voudrait faire de manière artistique, mais de fait, elle prend aussi énormément de photos dans la vie quotidienne, ce qui agace absolument Étienne. Elle dit, mais je ne suis sur aucun album, tu ne me prends jamais en photo, je vais disparaître sans laisser de traces si tu ne me prends pas en photo. Et Étienne ne comprend pas cette forme pour lui de narcissisme, à vouloir absolument être là en train de poser. Et il se trouve, et c'est terrible, et c'était important pour moi, c'est que le livre est construit dans les 3 jours avant l'homicide conjugal et dans les 2 jours après. Et donc nous avons en parallèle des éléments sur ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé juste après, pour aller ensemble jusqu'à ce moment-là. Et il se trouve que les policiers, donc, qui auditionnent Étienne juste après, mais donc en parallèle dans le roman, vont nous faire comprendre qu'ils ont retrouvé des photos dans l'appartement. En tout cas, Vive collectionnait les appareils photo jetables. Elle en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Elle prenait les photos jusqu'à la dernière capture et elle ne les développait pas. Et elle se disait, un jour, je les développerai. Un jour, je saurai que c'est le moment. Et elle en a donc depuis des années et des années. Et donc, il y a toujours un appareil photo jetable où il reste des captures. Ils vont tout développer, les policiers. Et il se trouve qu'Étienne, pour la première fois de sa vie, a pris sa femme en photo après l'avoir tuée. Et j'avais besoin de réfléchir à cela. Qu'est-ce qui s'est produit chez Étienne, elle qui lui reprochait tout le temps, je vais disparaître sans laisser de traces. Elle ne savait pas si bien dire, mais non, elle va laisser des traces. Et voilà, je voulais réfléchir. La photographie, c'est le regard qu'on porte. C'est ce qui se voit pas. On a l'impression que c'est l'art de ce qui se voit, mais la photographie, c'est l'art de ce qui est invisible.
Alors vous venez de dire tout à l'heure, c'est beau une rencontre, en parlant de celle de Mathieu et Benoît. Au-delà de vos 3 romans là précisément, la notion de couple, peut-être Claire Berès, mais je veux tous vous entendre, la notion de couple, c'est quelque chose qui vous interroge tous, vous fascine, la rencontre même, c'est quelque chose qui est très présent dans vos romans, par exemple Claire Berès, c'est pour ça que je voulais commencer avec vous.
Pareil, c'est un petit peu, entre, on va dire, accidentel. C'est-à-dire qu'on se rend compte, après quelques livres, que certains motifs reviennent d'un livre à un autre, mais on l'a pas fait consciemment. Et effectivement, après un certain nombre de livres, je crois que celui-ci est mon 9e livre, je me rends compte que dans tous mes romans, il y a le couple. Dans ce qu'il a du plus lumineux, du plus enthousiaste, du plus sacré, et dans ce qu'il a du plus sombre, d'abyssal. Et je ne me dis pas en commençant, je vais écrire sur un couple, mais c'est tout le temps là, parce que c'est quelque chose, je pense, voilà, qui nous questionne tous. On a tous été, on est ou on sera peut-être en couple. Cette sphère-là, voilà, c'est un endroit, c'est une zone que l'on connaît tous, mais qui est en permanence en train de nous questionner tant. Elle est étonnante de ce qui peut se passer de l'alchimie entre deux personnes, pour le meilleur et pour le pire. Donc oui, c'est dans tous mes couples. Et je me rends compte aussi après coup que la bascule, le déraillement, le fait qu'on se lève un matin et on ne sait pas que la journée va changer notre vie pour toujours, c'est un motif aussi qui se retrouve dans quasiment tous mes romans.
Mathieu, est-ce que vous-même, la rencontre amoureuse, alors peut-être les rencontres, ou l'amour en tout cas, c'est un sujet qui ne cesse de vous travailler dans vos textes ?
Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est effectivement ce dont parlait Claire sur l'invisible, sur le petit détail qui va, le petit grain qui va changer la vie. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la question de la théorie de l'effet papillon ou dans le petit grain, c'est que quel que soit ce que l'on vit, qu'on vive des choses heureuses ou malheureuses, on peut toujours revenir à une... En revenant en arrière, en refaisant le film en arrière, il y a toujours une histoire derrière. Et quand on comprend cette histoire, ça donne un sens à ce qui se passe. Par exemple, dans le livre, je l'ai... Avec Benoît, dans au début de notre rencontre, Benoît m'a expliqué qu'il était fasciné par la théorie de l'effet papillon, mais pas tant par la question météorologique, mais par le fait qu'on croise quelqu'un dans le métro et puis ça va changer notre vie. Et on avait lu un fait divers dans le journal d'une femme qui était très 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 en retard et qui essaye de se faufiler à Marseille pour aller le plus rapidement possible à son rendez-vous. Et puis elle klaxonne, il y a un camion de pompiers qui la laisse passer, ce qui est hallucinant, et elle arrive à gagner 10 mètres, et j'imagine qu'elle est heureuse à ce moment-là. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va rester bloquée pendant 3 secondes à un endroit, et c'est pendant ces 3 secondes, il se trouve qu'il y a un immeuble en construction avec un bloc de béton, un petit coup de vent qui va faire tomber le bloc de béton et qui va tomber sur cette femme, et elle va mourir sur le coup. C'est une histoire vraie. Et Benoît était fasciné par cette histoire de se dire, mais si elle n'avait pas été en retard, si le camion de pompier ne s'était pas déplacé, si elle ne serait pas morte. Et à la mort de Benoît, quand j'ai écrit ce livre, j'ai repensé à cette femme. Et je me suis dit, de temps en temps, on a le souvenir de quelqu'un, mais on se dit, est-ce que c'est vrai ? Et j'ai cherché sur Internet. Et j'ai retrouvé cette femme, et le livre lui est dédié. Elle s'appelait Marie-Thérèse Corso. Et je pensais qu'elle était seule dans sa voiture, elle n'était pas seule. Elle avait rencontré un homme la veille dans une boîte de nuit. Ils étaient tombés amoureux. Peut-être que c'est pour ça qu'elle était en retard. C'est cet homme qui conduisait. Elle était à la place du mort. Et elle est morte, lui pas. Et tout d'un coup, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'ils se sont rencontrés presque en même temps que Benoît et moi dans une boîte de nuit. Et en enquêtant, j'ai découvert l'interview du frère de Marie-Thérèse Corso qui dit « J'aimerais qu'on n'oublie pas ma sœur ». Et je me suis dit, c'est fou, c'est comme pour Benoît. Et je crois que c'est très universel de ne pas oublier. Et il dit, j'aimerais tellement qu'il y ait une plaque à l'endroit où ma sœur est morte, parce que c'est quand même incroyable, cette mort. Et donc, j'ai demandé à un ami, parce que je n'étais pas à Marseille à ce moment-là, d'aller vérifier, il n'y a pas de plaque. Et un de mes enjeux avec ce livre, ça serait qu'il y ait une plaque pour Marie-Thérèse Corso. Et j'ai essayé de retrouver son amoureux, parce que j'imagine, mais je n'ai pas réussi à retrouver son amoureux. Donc, en tout cas... Toutes les rencontres et les rencontres, comme dans le livre d'Alice, que ce soit des rencontres amicales, amoureuses, et surtout des gens qui n'ont pas vocation à se rencontrer. Et c'est vrai que ce que je trouve très intéressant dans le livre d'Alice, c'est qu'on pourrait penser que cette rencontre est totalement improbable, impossible, et en fait on y croit, et donc elle est possible, et donc elle existe. Et juste pour dire, je ne sais pas si, parce que je n'y avais pas pensé, s'il y a un lien avec Viviane Maier, parce que Viviane Maier, elle adorait faire des photos et elle ne les développait pas, et c'était Viviane. Et j'adore les artistes qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les gens qui font de l'art sans qu'on s'en rende compte. Et je trouve que les correcteurs, pour avoir beaucoup discuté avec des correcteurs, je trouve ça hyper fascinant parce qu'effectivement, ils doivent à la fois corriger, mais rester dans la langue de l'auteur. C'est un travail artistique qui est extrêmement intéressant. Et on revient toujours sur la question du silence, de ce qu'on ne voit pas, tout ça qui me touche.
Et Alice, je reviens avec vous sur l'idée de rencontre. Il y en a deux, ça a été un peu évoqué par Mathieu. Il y a une première rencontre dont on a un peu parlé. Il y en a une deuxième, un peu plus tardive, on ne va pas tout dévoiler du roman. Il y a une deuxième rencontre, peut-être un peu plus amoureuse, je ne sais pas. Il y avait l'idée d'explorer différentes facettes de la rencontre.
En tout cas, pour la rencontre de Isor et Lucien, j'ai aimé explorer la frontière de la relation amoureuse et de toutes les formes qu'elle peut prendre. Et ça, pour moi, c'en est une. Et ça fait partie de la manière dont je conçois le rôle de l'écrivain, qui est de proposer des nouveaux scénarios qui vont s'inscrire dans un imaginaire collectif. Et des scénarios sur l'amour, on a l'impression qu'on en a beaucoup, mais en fait, on en a un stock assez limité et c'est beaucoup les mêmes qui reviennent. Et moi, j'aime bien quand les textes sont des ouvroirs, quelque chose qui peut vraiment élargir l'imaginaire collectif d'une manière très inattendue, en proposant un modèle de... une évolution de sentiments qu'on pensait impossible jusque-là. Par exemple, il y a une pièce de Wajdi Mouawad que j'aime beaucoup. Il parle de la guerre du Liban. C'est sa dernière pièce qui s'appelle Racine carrée du verbe être. Et à la fin, toute la pièce conduit à ce qu'à la fin, ils disent merci à la guerre parce que ça, un peu comme cette histoire de Benoît, ça a fait une succession d'événements très particuliers dans sa vie qui l'a mené à être qui il est. Et cette phrase « dire merci à la guerre », on pense que c'est une phrase qui est impossible, mais tout le rôle de la pièce, c'est d'amener vers ce nouveau sentiment inédit, bizarre, dérangeant. Et là, je voulais qu'il y ait un peu la même chose entre Isor et Lucien, que ça soit une rencontre amoureuse dont maintenant chacun va pouvoir se saisir pour peut-être vivre quelque chose d'aussi dérangeant, étonnant que ça.
Il y a l'idée de... qui peut-être est dans tous les romans, l'idée d'être à sa place. Et c'est très présent dans votre roman, où il y a l'idée de... on veut la mettre dans une case. Et en fait, tout le roman, c'est aussi de se sortir, trouver elle, quelle est... alors, non pas sa case peut-être, mais sa place.
Oui, c'est une bonne opposition, la case et la place. Isor ne veut pas rentrer dans les cases, mais c'est vrai qu'elle cherche une place à occuper. Et Lucien aussi, il y a un passage où il dit que lors de ce drame... qui l'a touché, que je ne dévoile pas parce que c'est un... il y a peu de suspense dans le livre, mais ça c'en est un. Il a la sensation d'avoir complètement perdu sa place et s'est retrouvé à essayer de rapiécer sa vie. Il avait toujours vécu dans le quartier de Bercy à Paris et là il décide d'y retourner, un peu de recoudre ses souvenirs comme s'il n'avait jamais quitté cet endroit. Et c'est une manière très bancale d'essayer de renouer avec le sentiment d'appartenir à quelque chose. Et quand Isor arrive, il va se rendre compte que la place qu'on avait avant, on ne peut jamais la retrouver, mais on peut en avoir une autre ailleurs. Il dit « Le vide que laissent les morts ne se rebouche jamais, mais on peut créer le plein à côté. » Et c'est ça le parcours de Lucien dans le livre.
Et alors, vous proposez plusieurs points de vue sur vos personnages. D'abord, le père et la mère. En fait, on a toujours aussi un regard, un peu comme ce que vous, votre personnage de Vive, est vu à travers le mari. Vous, elle, le personnage est vu à travers les parents. On a une succession de notes, enfin de pensées des parents sur elle. Pourquoi ce choix ?
Oui, c'est intéressant le parallèle avec Claire. Dans mon cas, c'est parce que je pense que le personnage de Isor est trop immense pour être décrit par un narrateur unique qui saurait vraiment avec certitude qui elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. Et j'ai l'impression que la seule manière de parler de son immensité, de son gigantisme, c'était d'avoir un point de vue qui était morcelé, d'admettre qu'on peut juste prendre des flashs d'elle, des instants de sa vie, des points de vue, comme un ensemble, là encore une fois, de photos, où Isor serait un peu flou, ou peut-être elle serait un peu sortie du cadre, et on se retrouve avec cette galerie de portraits... pas très satisfaisante, mais quand on les met tous bout à bout, on arrive enfin à peut-être à saisir le mouvement particulier de cette jeune fille.
Vous, Claire, on en a parlé de ce point de vue, mais tout de même, c'est un choix fort de se mettre dans sa peau à lui pour un meurtre. C'était une évidence d'être de son point de vue. Et alors, on a parlé du fait qu'elle, on la voit à travers lui, mais il n'y a jamais eu la question de la voir, elle, d'avoir en tout cas son point de vue à elle.
C'est une des choses qui s'est imposée le plus vite. Effectivement, il y a d'abord eu cette période de recherche, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Et donc, dans cette période-là, je ne m'étais pas encore posé les questions de composition du texte, de cette question si importante de à quel endroit je parle, quel est le point de vue, quel est l'angle. Mais quand je suis passée dans l'étape de construction du livre, ça s'est extrêmement vite imposé parce que je pense que les romans sont là pour poser des questions, pas pour donner des réponses. Et il ne s'agissait pas de résoudre l'impossible équation, pourquoi, sans antécédent de violence, un homme parvient à tuer sa femme. Mais si je voulais faire le cheminement de pouvoir se poser des questions au plus proche de cet impensable, et il fallait que je me situe d'une certaine manière du mauvais côté du miroir. Il fallait que je me décentre par rapport à la victime. Il fallait que je fasse cet effort-là de me plonger dans le corps d'Étienne. Et ce qui était très intéressant, c'est que comme on voit tout par ses yeux, on n'a quasiment jamais accès aux pensées de quelqu'un d'autre. Deux fois, de manière très précise, le roman permet d'avoir le point de vue d'une de ses collègues, une éditrice qui lui fait des reproches cette semaine-là. En disant, Étienne, tu ne corriges pas, le problème c'est que tu réécris. Bon, et c'est une autre question sur, tu l'évoquais tout à l'heure. Donc à un moment donné, on est dans la tête une seconde de cette éditrice, et à un moment donné, on a le point de vue effectivement de vivre, parce qu'il fallait dans cette suffocation d'être dans la tête d'Étienne, qu'il y ait des toutes petites ouvertures. Mais je voulais tenir cette corde-là, et de fait, c'est un homme qui a un langage très châtié, qui est très articulé, qui est érudit, et en étant tout le temps dans sa tête, d'une certaine manière, la langue va elle-même dérailler. Il va y avoir une sorte de dégradation. Plus Étienne est attaqué, semble-t-il, par des choses cette semaine-là qui viennent le mettre à mal, qui viennent mettre à mal son amour propre, il se sent humilié. Et j'avais besoin, dans mon travail d'écriture, justement, d'essayer de mimer ce décrochage progressif comme des petits dominos machiavéliques qui vont s'écrouler jusqu'au pire. Et donc, voilà, c'était le projet d'écriture, de pouvoir parvenir à mimer quelque chose de ce déraillement et qui arrive comme un tsunami, de fait, mais il y a mille petites choses avant, mille petits souffles qui viennent expliquer, en tout cas, encore une fois, on questionne, on ne répond pas, mais qui viennent apporter des éléments pour essayer d'approcher cet impensable.
C'est un psychorigide, c'est un correcteur dans l'édition. Vous n'avez pas peur des corrections du prochain roman ?
Je remercie à la fin du livre mes correctrices, parce que c'était deux femmes. Non, j'espère aussi, même si Étienne le Chevalier est très terrifiant dans ce livre, j'espère rendre hommage à ce métier si important qui est celui des correcteurs et des correctrices.
Mathieu, sur le point de vue, vous nous disiez tout à l'heure que votre mari vous interdisait en quelque sorte d'écrire sur lui. Vous avez une autorisation finalement assez tardive. Le fait d'écrire aujourd'hui, en tout cas quand vous avez écrit ce livre sur lui, ça a été une libération. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail d'écriture pour en faire aussi le portrait de votre mari ?
Alors ça n'a pas du tout été une libération, parce que moi j'écris souvent sur des choses intimes, mais j'ai l'impression que curieusement, mon intimité n'est jamais dans mes livres, ce qui compte pour moi aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je suis en couple depuis un an avec un garçon qui s'appelle David. C'est ça ma réalité, c'est ça mon intimité, et ça n'est pas du tout dans le livre. Donc souvent, quand on écrit des choses intimes, on peut penser qu'on est en train de se dévoiler. Or, on ne se dévoile pas forcément. Sur la question du point de vue, moi, je me suis rendu compte que j'étais à ma place le jour où j'ai poussé plein de gens à écrire. Parce qu'il se trouve que c'est mon père qui m'a appris à écrire. Mon père m'a dit que j'étais un écrivain quand j'avais 5 ans. Je ne savais pas écrire à l'époque. Et j'ai toujours cru qu'écrire, c'était hyper simple, comme savoir manger, boire, dormir. Et donc, je me suis toujours senti légitime à écrire grâce à cette parole paternelle. Et en grandissant, j'ai compris que beaucoup de gens ne se sentent pas légitimes à écrire, et j'ai voulu offrir ce que mon père m'avait offert. Et si mon père m'a dit ça, c'est en partie parce qu'il est schizophrène, donc il a un rapport à la réalité compliqué. Et c'est là où j'ai compris que l'écriture, ça permet de créer du lien quand le lien est impossible. Et donc, toujours est-il que le jour où je me suis senti à ma place, c'était en 2000, à peu près, 2002, où j'avais proposé à une cinquantaine de personnes d'écrire. Et je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est créer des dispositifs pour pousser les gens à écrire. Et donc, à chaque fois, et dans ce livre également, ce qui m'intéresse surtout, c'est de trouver un moyen pour faire de l'écriture participative. Et donc, très concrètement, par exemple, dans ce livre, J'ai longtemps été avocat. Comme je le disais au début, il n'y a pas de loi sur les nuages. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire une action poétique pour que tout le monde écrive, pour aider à un droit des nuages? Donc j'ai créé le 29 mars la Journée internationale des nuages. Ce jour-là, je demande à tout le monde de s'allonger sur l'herbe pour regarder les nuages et écrire ce que l'on voit. Donc n'oubliez pas le 29 mars prochain. Cette année, il y a 1500 personnes qui ont participé. Et je considère que tous ces textes, c'est un remake de pétition pour écrire à l'ONU, pour demander qu'il y ait une loi internationale sur les nuages et pour demander à l'UNESCO de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a écrit à l'ONU, on a été reçu à l'UNESCO. Je commence à être reçu par des députés pour qu'une action poétique entre dans la politique. Et donc, à la fin du livre, dans tous mes livres, finalement, il y a toujours cette invitation à écrire auprès des lecteurs. Et là où je me sens à ma place, c'est quand je suis un peu un chef de l'orchestre de l'intime. Et par rapport à ça, dès que j'ai rencontré Benoît, je l'ai poussé à écrire. Et c'est un autre élément que je raconte dans le livre. Je pousse tout le monde à écrire et je me sens heureux quand les gens me disent qu'ils écrivent.
Alice, j'ai envie de vous poser la question, parce que vous êtes une jeune autrice, vous êtes toujours sentie à votre place au moment de l'écriture ?
Oui. J'ai plutôt du mal à m'exprimer par oral, ce qui est une chose que petit à petit j'ai réussi quand même à exercer. Mais... par écrit, déjà on a le sentiment d'être écouté. Moi, je suis très sensible au fait qu'on m'écoute ou qu'on m'écoute pas. Si je sens qu'on m'écoute pas, je parle pas. Si je sens qu'il y a pas la place pour ce que je vais dire, je le dis pas. Ce qui fait que je peux être dans plein de circonstances assez mutiques. Et par écrit, j'ai toujours le sentiment d'être écouté parce que je sais que sur l'ensemble des gens qui vont me lire, il y a au moins une personne qui va m'écouter profondément avec son cœur. Oui, donc, et puis, j'ai l'impression souvent je suis un peu cette petite Isor, et j'ai l'impression parfois que l'intensité des émotions que moi je vis, ça me donne une sorte de prisme et de décollement par rapport à la réalité que j'ai vraiment très envie de transmettre. Voilà.
Merci beaucoup, il est 15, je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions, mais vous pourrez les retrouver en dédicace. Je vais signaler justement les différentes dédicaces. Claire Berest, L'épaisseur d'un cheveu chez Albin Michel.
Merci beaucoup.
Vous serez en dédicace aujourd'hui et dimanche en kiosque L2. Mathieu Simonet, La fin des nuages aux éditions Julliard. Merci beaucoup, vous serez en dédicace cet après-midi et dimanche matin au kiosque L6. Et Alice Renard, Colère et l'envie aux éditions et Louise Dormesson en dédicace aujourd'hui et dimanche en stand L12. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci au festival.
Merci
à la régie.